fin du monde, dis-le moi. S'il te plaît, dis-le moi. C'est pas la fin du monde, rassure-moi. Pas déjà l'hécatombe de si bon matin. C'est pas la fin du monde, dis-le moi. S'il te plaît, dis-le moi. C'est pas la fin du monde, rassure-moi.
Radio G 101.5 FM.
Bonsoir et bienvenue dans Pouce Classique, l'émission consacrée à la musique classique avec tous les genres, tous les styles et toutes les époques. Ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio G et sur les ondes de l'autre radio qui émet donc en Mayenne. Nous allons vous proposer ce soir toute une émission consacrée à l'actualité des nouveaux albums, les sorties CD, des disques fort intéressants, des interprètes comme toujours fort intéressants, une grande variété, une grande diversité. On débute tout de suite avec le nouvel album de la grande violoncelliste française Ophélie Gaillard, qui consacre cette fois les partitions de Vivaldi. On l'écoute dans le célèbre concerto pour deux violoncelles de Vivaldi et le premier mouvement. Bonsoir, vous êtes dans Pouce Classique. Le célèbre concerto pour deux violoncelles d'Antonio Vivaldi, interprété ici par Ophélie Gaillard, la grande violoncelliste française. Elle était accompagnée pour l'occasion par un de ses confrères au violoncelle, Atsushi Sakai. Et puis il y avait les musiciens de l'ensemble Puccinella Orchestra. C'est à l'occasion d'un disque qui est sorti la semaine dernière sous le label Aparté, en partenariat avec le CIC. Et l'éditeur nous dit ceci, qu'après un double disque consacré à Boccherini, salué par la critique, Ophélie Gaillard et le Puccinella Orchestra nous entraînent à la découverte cette fois de l'incroyable palette sonore de Vivaldi, le plus génial des compositeurs vénitiens. Puisant dans les trésors du répertoire dédié à son instrument, la violoncelliste a conçu un florilège qui fait la part belle au concerto, qu'il soit solo, à deux ou à quatre. Il y a aussi des interventions chantées de Lucille Richardot et Delphine Galou dans des airs d'opéra. Tout ça font que c'est un programme, nous dit l'éditeur, qui irise et qui nous donne l'impression que nous voyons des rayons de soleil à travers les nuages. C'est vrai que c'est un disque à la fois très coloré, très nuancé et plein d'énergie. Parmi les raretés, Ophélie Gaillard grave aussi sur ce disque eh bien, le concerto pour petit violoncelle d'Antonio Vivaldi, un concerto pour violoncelle piccolo, et on en écoute tout de suite un extrait. Le premier mouvement du concerto pour violoncelle piccolo en si mineur d'Antonio Vivaldi, interprété ici par Ophélie Gaillard et les membres du Pulcinella Orchestra, un disque qui est sorti la semaine dernière donc sous le label Aparté en partenariat avec le CIC. Je vous propose maintenant de découvrir ou de redécouvrir la très grande chanteuse Barbara Hannigan. Elle est avec le Ludwig Orchestra et elle nous propose un disque intitulé La Passion, La Passione, et enregistre des pièces de Luigi Nono, de Haydn ou encore de Gérard Griset. Nous allons l'entendre tout de suite en tant que chef d'orchestre dans une symphonie 49 de Haydn et qui donne le titre à l'album. Cette symphonie 49 est baptisée La Passion. Nous entendons Barbara Hannigan à la direction et les musiciens de Ludwig Orchestra dans ce menuet trio, troisième mouvement de cette symphonie 49. Le troisième mouvement menuet trio de la symphonie 49 de Joseph Haydn, intitulé La Passion, et c'était la chef d'orchestre Barbara Hanningan qui dirigeait ses musiciens du Ludwig Orchestra, un disque qui sort sous le label Alpha Classics. C'est un disque qui va sortir prochainement cette semaine, on l'espère, et qui consacre donc les musiques des compositeurs Luigi Nono, Joseph Haydn et Gérard Griset, Barbara Hanningan passant successivement du rôle de chef d'orchestre à son rôle de cantatrice de soprano canadienne. Que nous disent nos confrères de France Musique? Eh bien, on apprend que le point de départ du troisième enregistrement que Barbara Hanningan réalise pour Alpha est en fait une œuvre de Gérard Griset, compositeur décédé en 1998, qui lui tient particulièrement à cœur. « J'ai conçu les quatre chants pour franchir le seuil », écrit le compositeur, comme une méditation musicale sur la mort en quatre volets. La mort de l'ange, la mort de la civilisation, la mort de la voix et la mort de l'humanité. Les textes choisis appartiennent à quatre civilisations, chrétienne, égyptienne, grecque, mésopotamienne, et ont en commun un discours fragmentaire sur l'inéluctable de la mort. C'est un disque que vous retrouvez donc sous le label Alpha Classics et qui permet de découvrir les multiples facettes de Barbara Hanningan. Après l'avoir entendue en tant que chef dans cette symphonie de Haydn, je vous propose de la découvrir maintenant au soprano, justement dans un extrait de ces quatre chants pour franchir le seuil de Gérard Griset. On l'entend tout de suite dans La Berceuse. Thank you. Vous êtes bien dans Pause Classique sur les ondes de Radio G et sur les ondes de l'autre radio. Nous entendions la soprano canadienne Barbara Hannigan interpréter ici la berceuse, la dernière pièce qui ferme le recueil du compositeur français Gérard Griset, compositeur décédé en 98 et qui avait intitulé ce recueil 4 chants pour franchir le seuil. Nous entendions ici le dernier mouvement, la berceuse. Barbara Hannigan était accompagnée de ses musiciens de l'ensemble du Ludwig Orchestra, un disque qui sort cette semaine, le 27 mars, si tout va bien, et qui sera donc édité sous le label Alpha Classics. On continue à présent avec de la musique de chambre au disque cette semaine, et la musique de Schumann, de Robert Schumann et Clara Schumann, sa femme, un très beau disque qui regroupe la musique de chambre autour du violon et du piano. Ce sont deux artistes françaises qui s'y attellent et on a plaisir à les découvrir et à les diffuser pour la première fois dans Pause Classique. On retrouve donc ici au disque Fanny Robillard et Paloma Cuider. trois romances pour violon et piano, opus 22, qu'avait écrit Clara Schumann. Nous l'entendions interprété ici par la violoniste Fanny Robillard et la pianiste Paloma Kuder. C'est un disque consacré à Brahms et Schumann de musique de chambre qui sort sous le label Little Tribeca. Un disque dont François Udry, pour Cobuse, nous dit combien il est rempli de fraîcheur, combien il y a certes à la fois une naïveté, une vision anecdotique de voir sur la pochette du disque ces deux interprètes courir dans les fougères, mais ce disque rassemble au fait beaucoup, rassemble en fait, et non pas au fait, rassemble énormément d'amitié, une amitié déjà entre ces deux interprètes, mais une amitié aussi des trois compositeurs présents sur ce disque, Robert Schumann, Clara Schumann, son épouse, et évidemment Johannes Brahms, un très beau disque à découvrir rapidement. Passons maintenant à la musique symphonique, avec la musique du compositeur américain Aaron Copland. Pour découvrir Aaron Copland, eh bien, il faut aller avec les musiciens de l'Orchestre Symphonique de San Francisco, placé sous la direction de Sir Michael Tilson Thomas.
Thank you.
suivez Pause Classique sur les ondes de Radio G ou de l'autre radio en Mayenne, vous pourriez vous dire, mais on est donc déjà dans la séquence musique de film, et qu'est-ce qu'on essaye de découvrir aujourd'hui? De quel film s'agit-il? Eh bien non, il s'agit avant tout de la musique du compositeur américain Aaron Copland, qui, vous l'aurez compris, préfigure énormément ce que deviendra la musique de film. On pense notamment aux films et aux musiques de Jerry Goldsmith. Aaron Copland, lui, eh bien, il est le chef de file de l'école américaniste, avec notamment Charles Ives et Virgil Thomson. Il ouvre la voie, nous disent France Musique, à l'affranchissement progressif des compositeurs américains face à l'influence européenne. Les premiers contacts d'Aaron Copland avec la musique se font lors de cérémonies et mariages juifs. La présence de cette musique se retrouvera d'ailleurs dans la plupart de ses œuvres. C'est en 1915 que naît réellement sa vocation de compositeur, alors qu'il assiste à un concert du pianiste Iñaki Penderevski. Le jeune Copland fera ses armes avec Rubin Goldmark, qui lui enseigne l'harmonie, la théorie et la composition. De 1901 à 1924, il vient séjourner à Paris et suit les cours de la célèbre professeure Nadia Boulanger, qui lui apprendra donc la composition et l'harmonie. Et puis, ce compositeur s'installera définitivement à New York, où il exercera de nombreuses activités musicales, compositeur, conférencier et pianiste. C'est toujours un bonheur de retrouver la musique d'Aaron Copland. Elle est ici proposée au disque cette semaine dans un très bel album avec les musiciens de l'Orchestre Symphonique de San Francisco, placé sous la direction de Sir Michael Tilson Thomas. Vous pouvez donc découvrir l'entièreté de cette symphonie numéro 3, et elle est éditée sous leur propre label, San Francisco Symphony Media. On continue la musique symphonique, et cette fois-ci agrémentée de la voix, avec le très beau et pas si souvent entendu Requiem de Dvorak. Mozart qui termine la première partie de ce Requiem opus 89 d'Antonin Dvorak, un très beau disque qui sort cette semaine sous le label Decca et qui consacre donc les œuvres sacrées du maestro interprétées justement par ses compatriotes, puisqu'on entendait les musiciens de l'orchestre philharmonique tchèque placés sous la direction de Jakub Husra, et vous pouvez entendre également les chanteurs Jan Martinik ou encore le chœur de l'orchestre philharmonique de Prague, un disque qui sort donc sous le label Decca et avec une autorisation exclusive du philharmonique tchèque. Une très belle œuvre qu'est ce Requiem de Dvorak. On retrouve aussi sur ce disque justement des chansons bibliques ainsi qu'un Tédéum, un Tédéum opus 103 du compositeur. On va continuer notre actualité des disques, actualité des albums notables cette semaine et la semaine dernière, avec un disque qui sort sous le label Harmonia Mundi et qui consacre cette fois la musique d'Antoine Boessé. D'Antoine Boessé qui écrit plusieurs chansons, et nous allons entendre par exemple à l'instant « Fut-il jamais une rigueur pareille ?»
Fut-il jamais une rigueur pareille à la rigueur qui prouve mon amour? Je suis écrit d'une chaîne rempli de tant de charme que les mortels devraient adorer. Je n'ai point Dieu que pour verser des larmes, ni point de cœur qu'afin de sourire. Et toutefois, ce soleil de mon âme, et toutefois, oh, l'ardeur qui m'enflamme, je ne puis voir ce soleil de mon âme.
Esprit jaloux, faut-il donc que je pleure, privé du fruit de
j'espère qu'en le bonheur, le seul toucher d'une douce amitié me permettra que le cœur de ma flamme de voir souvent le soleil de mon âme. Me permettra
Fut-il jamais une rigueur pareille, la musique d'Antoine Boessé avec l'ensemble Correspondance. C'est à l'occasion d'un disque qui sort sous le label Harmonia Mundi et qui consacre donc à l'ensemble Correspondance avec ce très beau titre Les Plaisirs du Louvre. C'est un très beau disque également, Les Plaisirs du Louvre, avec à la direction Sébastien Dossé. Là encore, sur le site de France Musique, on peut apprendre que avant Versailles, l'épicentre du pouvoir au roi Royaume de France était le Louvre, véritable théâtre de cérémonial où la musique se devait de briller par sa magnificence. Durant le règne de Louis XIII, l'air de cour et le ballet mobilisent l'élite de compositeurs tels que Moulinier, Guédron, Chancy. Le plus réputé d'entre eux, Boessé, fera évoluer l'air polyphonique hérité de la Renaissance vers une conception plus intime. Loin des fastes à venir à l'ombre du roi soleil, un océan plutôt de miniatures délicatement ciselées s'offre aujourd'hui à nos oreilles grâce aux talents réunis des musiciens de l'ensemble Correspondance. Je vous propose d'entendre d'ailleurs à nouveau une deuxième chanson de ce compositeur Boécé et de vous faire découvrir pour l'occasion le ballet des nymphes bocagères de la forêt sacrée. Et nous entendons précisément « Reine que je sers et que je connais ».
Je sais et que je connais bien plus belle et chasteuse que moi. Reine, je sais et que je connais bien plus belle et chasteuse que moi.
Correspondance, placée sous la direction de Sébastien Dossé à l'occasion de la sortie de leur nouvel album intitulé Les Plaisirs du Louvre, qui sort sous le label Harmonia Mundi. Et nous découvrions avec une certaine fraîcheur la musique de ce compositeur, et précisément ce compositeur qu'est Antoine Bossé. Et précisément, là, nous entendions un extrait du ballet des nymphes bocagères de la forêt sacrée. L'ensemble nous chantait Reine que je sers et que je connais. Voilà, pour terminer Pause Classique cette semaine, eh bien je vous propose d'entendre un extrait de bande originale de film. Là aussi, jouons la devinette, on en parle après, on l'écoute d'abord. Normalement, il ne devrait pas y avoir de grandes difficultés. Pause Classique, vous le savez, c'est la diversité des musiques et c'est là aussi l'occasion d'entendre justement ces différentes richesses. Sans doute aurez-vous reconnu la musique d'Éric Serra. Il y a des marques de fabrique et des indices qui ne trompent pas pour reconnaître les compositeurs de musique de film. Et les différents effets qui sont utilisés par Éric Serra font qu'il est reconnaissable parmi tant d'autres. On aurait pu hésiter entre un mélange du Grand Bleu ou du Cinquième Élément. Eh bien non, il s'agissait du film Léon de Luc Besson avec entre autres Jean Reno et la jeune Nathalie Portman. Éric Serra signe la plupart des films de Luc Besson, à commencer évidemment par Le Grand Bleu. Éric Serra a signé également la bande originale du film GoldenEye, qui signait en 1995 le grand retour du célèbre espion britannique James Bond. Alors Éric Serra est né à Saint-Mandé, c'est un compositeur français. Il est né en 1959 et il a notamment obtenu le César de la meilleure musique de film pour le film Le Grand Bleu en 1989. Il débute la guitare et il apprend la guitare à l'âge de 5 ans, puis à 11 ans il se fait offrir une guitare électrique. Il va apprendre la batterie, la guitare basse, le synthétiseur, le piano. Une carrière professionnelle qui va commencer très tôt. À 17 ans, il tourne avec le chanteur français Michel Murti. Il participe également à des sessions de studio avec Morricante ou encore Didier Lockwood. En 1979, Serra travaille sur un album de Pierre Jolivet lorsqu'il fait la rencontre du jeune cinéaste Luc Besson. À l'époque, Pierre Jolivet et Luc Besson travaillent ensemble sur quelques projets de court-métrage. Luc Besson fut particulièrement impressionné par le talent musical de Serra et lui demanda de composer la musique de son court-métrage L'Avant-Dernier, puis de son premier long-métrage Le Dernier Combat. Et l'on devine évidemment ce qui sera la suite. Voilà, Pause Classique, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve évidemment dans 15 jours, dans un instant, la suite logique des programmes sur Radio G avec normalement Intoxica présenté par King Olivier. Et puis vous retrouvez en revanche les programmes de la nuit sur l'autre radio. On se retrouve très vite, prenez soin de vous et à très bientôt.
FM.